Je vous invite donc à vous tourner dans le livre d'Esther, le dernier des livres historiques de la Bible, au chapitre 5. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, tant pis pour vous, non. On s'est régalé avec l'étude du chapitre 4. Et chapitre 4, qui a sans doute le verset le plus connu du livre d'Esther, où l'oncle d'Esther fait savoir à sa nièce ou sa cousine, le même mot est utilisé, peu importe, c'est lui qui l'avait élevé dans les voies du Seigneur, et apprenant qu'il y avait un complot du premier ministre Aman contre les Juifs, on a vu les origines sataniques de l'antisémitisme, il fait savoir à sa protégée, à Esther, qu'il faut qu'elle intervienne auprès du roi pour empêcher ce plan satanique de détruire tous les Juifs du royaume de Perse, qui était beaucoup plus grand que l'Iran actuel, puisqu'il allait de l'Éthiopie à l'Inde. Il y avait 127 provinces, mais une seule province. C'était pas dans l'Empire perse encore. Et il lui dit, ne crois pas que parce que tu es la reine, que tu vas échapper à cette destinée que cet antisémite a vouée contre les Juifs. D'une façon ou d'une autre, tu risques de périr. Et il a cette phrase fameuse, d'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Et ça, c'est quelque chose qui s'applique à toutes nos vies. Nos circonstances ne sont pas fortuites, elles ne sont pas le fruit du hasard. Dieu a des plans. C'est quelque chose qui est répété dans la Bible. Jérémie 29, 11, si vous ne connaissez pas, je vous le recommande. Vous pouvez le noter, on ne va pas en parler aujourd'hui. Dieu a des plans. Et c'est pour ça que lorsque des fois on ne comprend pas ce qui se passe, on se dit, bon, mais c'est pas grave, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je sais que Dieu contrôle les choses. Et je sais, basé sur déjà des expériences, sur ce que sa parole déclare, que je peux lui faire confiance. Et ça fait toute la différence. Et il lui dit en essence qu'il ne faudrait pas qu'elle se la pète, comme on dit vulgairement, qu'elle se prenne au sérieux en se disant « Je suis la reine parce que je suis la plus belle, parce que je le vaux bien. Je suis la plus belle du royaume et c'est pour ça que je suis la reine. » Non, son oncle lui dit « Il y en a plein d'autres et si le roi t'a choisi, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois dans cette position à ce moment donné de l'histoire parce qu'il veut t'offrir un rôle à jouer. » Et son oncle très très justement lui dit que de toute façon, si tu continues à te taire, Dieu va trouver quelqu'un d'autre pour sauver les Juifs. Dieu a promis au peuple juif, en appelant Abraham, qu'il allait bénir ce peuple, qu'il allait l'utiliser, et qu'on le veuille ou non, Dieu est fidèle à ses promesses. Et en tant que chrétien, si on veut que Dieu... Si on espère que Dieu soit fidèle aux promesses qu'il a faites à l'Église, on veut qu'il soit fidèle aux promesses qu'il a faites à Israël. Et c'est ce qu'il fait. Et il lui dit, si tu n'agis pas, Dieu trouvera quelqu'un d'autre. Mais toi, c'est toi qui vas être perdante. Et on sait que c'était une décision difficile pour la reine, pour Esther, parce qu'elle risquait sa vie. Ça faisait 30 jours que l'empereur Assuérus, Xerxès Ier, ne l'avait pas appelé dans ses demeures. Il l'avait laissé dans le harem. 30 jours, elle devait se poser des questions. Peut-être qu'il a trouvé une autre favorite qu'il préfère. Peut-être que, avec tous ces loukoums, j'ai pris trop de poids dernièrement. Et alors, elle fait répondre à son oncle Mardochée, il fallait qu'il parle par un intermédiaire, un eunuque, allez, associez-vous, je vais jeûner. Et que tous les juifs qui se trouvent à Suse jeûnent à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 heures sur 24. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Il fallait qu'elle attende normalement que le roi l'y invite. Mais elle est prête à prendre ce risque et elle a ces fameuses paroles. Si c'est pour ma perte, je périrai. Parce qu'elle a compris que de toute façon, elle va y passer. Soit elle ne fait rien et on saura qu'elle était juive et elle sera exterminée avec tous les juifs du royaume. Soit elle y va et le roi refuse de la recevoir. Il faut savoir qu'à la porte, il y avait des gardes avec des haches bien affûtées qui étaient prêts à couper la tête de quiconque essaierait de s'introduire chez le roi sans y avoir été invité. Donc elle a cette attitude de dire « Je me rends à la volonté de Dieu, je lui fais confiance, si je dois mourir maintenant, eh bien que je meure maintenant. » Mais je vous demande de jeûner avec moi. Alors je plaisantais sur le fait qu'elle avait peut-être pris un peu de poids. Sachez qu'elle ne jeûnait pas pour retrouver la ligne qui prélairait au roi. Les juifs ne jeûnaient pas pour trouver la ligne. Au contraire, la prospérité à l'époque, c'était d'être plutôt bien bedonnant, pouvoir manger de la graisse. Les gens ne mangeaient pas comme nous mangeons aujourd'hui. Et ils avaient tendance à être minces. Et un signe de prospérité, c'était d'avoir de l'embonpoint. Donc, si elle jeûne, et là, c'est pas précisé, il y a 2 livres dans la Bible qui ne mentionnent pas le nom de Dieu. Est-ce que vous savez lesquels? Il y a Esther, et puis il y en a un autre. Le Cantique des Cantiques. Dieu n'est pas mentionné, et pourtant Dieu est présent. C'est lui qui parle aux amoureux, qui leur dit au milieu du texte du Cantique des Cantiques, « Prenez de la joie, mes bien-aimés. » Invitant l'homme et la femme à prendre de la joie dans la relation du mariage. Et il n'est pas question de prière, mais il est question de jeûne. Et il faut savoir que à l'époque, il n'y avait pas de jeûne sans prière. Donc là, elle se tourne vers Dieu. Avant d'aller rencontrer le roi, elle va prier. Mardochée s'en alla pour faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. C'est intéressant que un changement s'opère, elle s'abandonne à la volonté de Dieu et c'est elle maintenant qui va prendre la direction des événements. Jusque-là, c'était Mardochée qui résistait aux circonstances. Il y avait ce premier ministre Haman qui voulait que tout le monde s'agenouille devant lui, le vénère, et lui avait refusé. C'est lui qui donnait des ordres à sa cousine. Maintenant, c'est elle qui, une fois qu'elle a accepté de se plier à la volonté de Dieu, elle est en quelque sorte promue au rôle de première instigatrice, de première personne dans cette histoire. On va commencer à lire ensemble vers le chapitre 5. Quand le 3e jour fut arrivé, Esther revêtit les insignes de la royauté et se présenta dans la cour intérieure du palais royal face au palais. Le roi siégeait sur son trône royal dans le palais face à l'entrée de l'édifice. Intéressant, on est passé du chapitre 4 au chapitre 5, ça nous a pris 2 semaines parce qu'on n'a pas étudié la semaine dernière le livre d'Esther. Où est-ce qu'on l'a étudié? Si, ça nous a pris qu'une semaine. Là, c'est juste un verset, mais il s'est passé 3 jours. Et encore une fois, lorsqu'on lit la Bible quotidiennement, ce que je vous recommande, j'espère que vous avez tous pris la résolution de lire toute la Bible cette année. Est-ce que vous avez réussi? Où est-ce que vous en êtes dans la Genèse? Ou est-ce que vous avez juste lu le chapitre 1? Essayez. Il y a des ressources maintenant en ligne où vous pouvez suivre, vous pouvez écouter les passages à lire. On n'a plus d'excuses vraiment. Même si vous n'avez pas le temps, si vous êtes dans les transports, vous pouvez écouter la Bible sur votre MP3, l'écouter dans votre voiture. Et c'est vrai que quand on lit la Bible pour lire des grandes portions, souvent on dit, bon ben voilà, Mardochée s'en alla pour faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné, quand le 3e jour fut arrivé, Esther revient-il, c'est bien, je veux pas dénigrer cela, mais on n'imagine pas l'épreuve qu'Esther a vécue pendant 3 jours et 3 nuits. À se demander, est-ce vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que je vais avoir mal si les gardes me ratent la première fois quand ils essayent de me couper la tête? Est-ce que je vais m'évanouir avant? Est-ce que le roi va encore m'aimer? Mais elle prie, elle reste pas inactive. Et on va voir aussi quelque chose de remarquable, c'est qu'elle fait un jeûne complet, sans manger ni boire. C'est quelque chose que vous pouvez faire, mais faites attention médicalement, ne faites pas ça si vous êtes faible, si vous avez des problèmes de diabète, des problèmes de santé, des problèmes cardiaques. Faites ça sous surveillance médicale, mais là, pendant 3 jours, 24-3, sec, sans manger ni boire. Si vous avez déjà jeûné un peu, vous savez que au début ça va, et puis quand l'estomac commence à faire des petits gargouillis, et vous commencez à penser à la nourriture, elle va prévoir un repas. Elle est en train d'organiser pendant ces 3 jours un repas, mais elle jeûne. Parce qu'elle est consacrée à Dieu et elle prie. Et c'est vrai que si on s'aperçoit que quelque chose est très sérieux, très, très grave, on peut oublier les besoins de nourriture, les besoins de boisson. Souvent, c'est votre femme qui vous appelle parce que vous êtes en train de terminer un projet. C'est prêt! Non, mais laisse-moi finir! Je termine sur l'ordinateur. Si on est pris, si on est préoccupé, et elle savait que il fallait qu'elle prie, qu'elle recherche la volonté de Dieu, sa protection qui lui donne la faveur du roi. Non seulement pour elle, elle avait décidé, bon ben, je dois y passer, si c'est mon moment, j'y vais. Mais elle se prépare. Elle se prépare avant d'aller voir le roi. Alors il y a une histoire historique, une histoire dont on peut apprendre des choses. Nous, le grand roi, c'est bien sûr Dieu. Dieu nous a dit que par le sacrifice de Jésus-Christ, on pouvait s'approcher du trône de la grâce avec assurance. Elle priait pour avoir cette assurance. Ça, c'est Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Dieu nous dit, venez à moi comme vous êtes. Mais en fait, nous nous approchons du trône de Dieu par le sacrifice, parce que Jésus-Christ s'est donné un sacrifice. Et nous allons voir que nous voyons, nous avons lu, qu'elle s'habille de façon royale. Elle a soigné son apparence. Elle veut rappeler au roi qui elle est la reine, elle met les insignes de la royauté, elle se revêt de royauté. Et nous aussi, lorsque nous approchons de Jésus, nous pouvons nous revêtir de la justice de Jésus-Christ. Et cela, nous l'accomplissons simplement lorsque nous venons à Jésus pour demander pardon pour nos péchés, lui demander de devenir notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur. À ce moment-là, il est dit que nous sommes comme revêtus de sa justice. On pourrait penser que c'est presque un tour de passe-passe. Et que si on s'approche de Dieu, il va dire « Ah non, là, tu as mis des vêtements qui ne t'appartenaient pas, là. Tu t'es déguisé en homme juste. » Non, nous revêtons de sa justice. Jésus est venu pour prendre nos péchés et nous donner sa justice. Nous pouvons être revêtus de sa perfection divine. Et lorsque nous approchons du trône de la grâce, l'accès est libre. Il n'y a pas des gardiens qui viennent nous couper la tête ou le roi Dieu qui dit « Coupez-lui la tête ». Et lui, il était sur le trône royal, il pouvait voir la cour intérieure. Elle était un peu comme devant le palais de l'Élysée, quoi. Il y avait la garde républicaine prête à l'arrêter. Et puis il y avait le Assuérus Hollande qui pouvait la voir. Et il est dit, au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle obtint sa faveur. Elle devait être très belle, et il faut se rappeler qu'il l'avait déjà choisie parmi toutes les concubines pour être la reine qui avait succédé à Vashti, qui n'avait pas obéi au roi. Elle était très belle, mais encore une fois, c'est Dieu qui change le cœur des hommes. Proverbe nous dit que le cœur des rois est comme un courant d'eau. Dieu peut l'incliner, peut le détourner comme il veut. Ça, c'est... Il n'y a pas d'empereur, de personne, de président, de maire, de député, de chef, de quoi que ce soit, de général, de maréchal d'armée, qui soit à l'abri de la main de Dieu pour détourner les intentions de son cœur. Et ça, c'est merveilleux à savoir. Même lorsque des dictateurs sont au pouvoir, Dieu peut incliner leur cœur. Rien ne résiste à Dieu. Et cette puissance, on l'invoque par la prière, par le jeûne. On a des fois un sentiment d'impuissance devant ce qui se passe dans notre monde, devant les lois qui sont ordonnées, qui sont mises en application, qui sont décrétées par des gouvernements qui ne respectent pas Dieu. On voit maintenant que l'enseignement de la théorie du genre est prévu pour la rentrée de 2015. Il y a déjà les manuels qui vont dire aux enfants que si tu es une fille, tu peux te couper les cheveux, tu peux être amoureuse d'une autre petite fille ou tu peux faire ce que tu veux. Tout ça, c'est des vieux restes machistes d'une vieille morale traditionnelle judéo-chrétienne qui a conduit à toutes ces guerres de religion et Et je vous laisse ajouter tout ce que vous pouvez imaginer. Et on peut se dire, waouh, la fin des temps est proche. Restons dans nos ghettos chrétiens, dans nos petites églises, ne parlons pas au dehors. On peut se dire, attends, c'est pas la volonté de Dieu pour la France, pour l'Europe. Mettons-nous à jeûner, mettons-nous à prier. Dieu donne des visions en ce moment même, parmi nous, pour lutter contre ces choses. Je laisserai les personnes qui sont ainsi interpellées vous faire part, de façon privée pour l'instant, des projets que Dieu met sur le cœur. Nous devons garder ces projets dans la prière, croire que Dieu est tout puissant pour changer des lois iniques. L'avortement. Oh, l'avortement, ça c'est une grande conquête féminine. On peut enfin disposer de son corps, faire n'importe quoi, et puis après mettre à mort des enfants qui n'ont rien demandé. Alors, je vous demande pardon, je sais que les chances sont telles que parmi nous, il y a peut-être des personnes qui ont fait des avortements. Dieu peut, c'est pas le péché impardonnable, mais qu'est-ce qu'on fait quand on subit un avortement? On met à mort une vie qui est en marche. Pascal s'étonnait qu'une loi changeait au-delà des Pyrénées. Et c'est intéressant qu'aujourd'hui, justement au-delà des Pyrénées, il y a un gouvernement qui est en train de remettre en question cette liberté de l'avortement. L'Espagne est en train de revoir cette loi. Et il y a d'autres solutions, mais elles sont. Il n'en est pas question dans le planning familial ici. Nancy me raconte avoir été avec des jeunes filles qui ont pu avoir leurs enfants, Dieu merci, que les personnes en charge de l'accueil là-bas vous disent, vous êtes étudiante, vous êtes enceinte, prenez rendez-vous jeudi, vous serez libérée, ça sera plus un mauvais souvenir, c'est une petite bricole. Non, c'est une vie qui est en vous, qui est en devenir. Et ces lois qui semblent, maintenant c'est le bien pensé, c'est le politiquement correct. Simone Veil était une grande femme. Il y a d'autres façons d'aborder la chose. On a une nièce qui est tombée enceinte. Elle a donné son enfant, elle a porté son enfant jusqu'à la naissance, et elle a donné son enfant à adopter à un couple chrétien par l'intermédiaire d'une organisation chrétienne. Des gens qui ne peuvent pas avoir des enfants, il y en a des milliers, ils sont obligés d'aller en Chine en chercher. Et ici, on en sacrifie des dizaines de milliers. On marche sur la tête. Et au nom de je sais pas quelle bien-pensance politiquement correcte, on dit que c'est la bonne façon de faire les choses. Aux États-Unis, depuis la loi Roe contre Wade c'était un district qui s'opposait à l'avortement. Roe, c'était une dame qui voulait avorter, qui a gagné son jugement, qui maintenant est devenue chrétienne et milite contre l'avortement. Depuis cette date, il y a eu 20 millions de bébés avortés. Aujourd'hui, il y a 20 millions d'immigrants aux États-Unis. Hein? Est-ce qu'il y aurait un rapport de cause à effet? Les États-Unis sont un grand pays d'immigration, et c'est pas le problème. Mais on est en train de jouer avec le feu, on fait du n'importe quoi, et Dieu peut infléchir le cours des lois. Mais il faut que l'Église se bouge, l'Église se mobilise, l'Église prie, l'Église ait confiance que Dieu est tout puissant. Et qu'on ne doit pas subir comme une fatalité les choses qui sont iniques, qui sont opposées à la lecture la plus simple de la Bible. Aime ton prochain, est-ce qu'une maman peut avoir quelqu'un de plus proche qu'un bébé en elle? Elle obtint la faveur du roi. Revenons à notre texte. Et le roi s'approche. C'est lui qui tend le sceptre d'or qu'il avait en main, et elle vient toucher la pointe du sceptre. Et le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther ?» Une meilleure traduction, ce serait, « Qu'est-ce qui ne va pas ? Quelle est ta requête ? Elle te sera accordée jusqu'à la moitié du royaume. » Ça, c'est une expression qui revient dans la Bible. Et c'était une façon de dire, « Je suis prêt à tout te donner. » Il gardait quand même une moitié du royaume, mais il était prêt à lui acheter un manteau de vison, une villa sur la Côte d'Azur. Elle aurait pu dire n'importe quoi. Elle avait obtenu sa faveur. Et là, on se dit, ça y est, là. Elle peut dire, exécute ton premier ministre, Aman, qui veut tuer tous les juifs. Je suis moi-même une juive. Mais elle a prié. Elle a prié, dans la prière, Dieu lui a communiqué de la sagesse. Elle n'agit pas de façon impulsive. Elle invite le roi et Aman à un festin. Elle sait que le roi, on a remarqué déjà, hein, il aime bien la bouffe. Il est toujours en train de faire des festins et des... Le livre d'Esther, je crois qu'il y a 8 grands repas comme ça. Et elle lui dit, s'il plaît au roi, toujours pleine de respect, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Pendant qu'elle jeûnait, elle a préparé un festin. Elle aurait pu goûter les sauces ou un petit morceau de poulet. Non, elle a jeûné, elle a prié. Et à ce moment-là, le roi dit, pressez Aman de donner suite à l'invitation d'Esther. Esther, une juive, maintenant c'est elle qui met la pression par cette requête sur le premier ministre. Verset 6, le roi et Aman vinrent au festin qu'Esther avait préparé. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Quelle est ta requête? Jusqu'à la moitié du royaume, elle sera exaucée. Donc, il se retrouve au repas préparé par Esther. Et là, l'ambiance était détendue, chaleureuse. Devine qui vient dîner ce soir. Quelle est ta demande? Encore une fois, il l'assure de répondre à n'importe quelle requête qu'elle pourrait lui demander. Et elle, on dirait qu'elle hésite encore un peu. Elle répond, ma demande, ma requête, si j'ai obtenu la faveur du roi, qu'il plaise au roi d'accorder ma demande et d'exaucer ma requête. Que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai et demain je répondrai explicitement au roi. Donc là, on pourrait penser que là, elle aurait pu... Devant le premier ministre Aman, qui était à sa table avec le roi, elle aurait pu dire, ben voilà, lui, il est en train de prévoir l'extermination des Juifs. Mais Dieu lui a, on peut penser que dans ce temps de prière, de jeûne, Dieu lui a demandé d'être patiente. Et on va voir que sa patience, elle va être d'une grande utilité, parce que, Aman va aller s'enferrer de plus en plus, et ça va provoquer ce qu'on lira au chapitre 6, la semaine prochaine, Dieu voulant, la fin de Aman encore plus vite. Mais après ce repas, devine qui vient dîner ce soir, on fait le repas, et puis là, on dit, ben, demain, on se retrouve encore pour manger. On s'aime bien, la nourriture était bonne, on continue. Et là, on voit, à partir du verset 9, la façon dont Aman réagit, le premier ministre. Bien souvent, les choses, les apparences sont trompeuses. Aman, qui vient de dîner avec la personne qui va vouloir le faire exécuter à la place des Juifs, lui, il n'a rien compris. Il n'a pas fri. Il n'a pas tout compris. Il sortit ce jour-là, le cœur plein de joie et d'euphorie. Il est comme sur un nuage. On a vu que c'était un homme essentiellement orgueilleux. L'orgueil le dévorait. Il était en colère contre Mardoché qui ne se prosternait pas devant lui. Et là, il se dit, ah là là, je suis vraiment au top. Non seulement le roi m'a nommé premier ministre, mais maintenant je suis invité au repas en tête à tête avec le roi et la reine. Il savait sans doute que le roi et la reine ne mangeaient pas souvent ensemble, mais apparemment, à chaque fois qu'ils se retrouvent maintenant, il fait partie du trio. Le bonheur. Il nage en plein bonheur, son orgueil est satisfait. Encore une fois, il ne sait pas qu'il est à quelques heures de sa chute et de sa mort. Et puis, c'est intéressant parce que ça nous parle aussi. Soudain, dans ce moment d'euphorie, là là, je suis le plus fort, tout le monde m'aime, je connais le roi, je connais la reine. Oh non, il y a Mardoché là-bas, il se lève même pas devant moi. Il voulait pas se prosterner, maintenant il se lève même pas. Et alors Aman fut rempli de fureur au sujet de Mardoché. Tout va bien pour lui, apparemment, c'est ce qu'il pense. C'est vrai que ça va pas du tout, en réalité. Mais il y a une chose qui l'obsède, c'est ce juif, Mardoché, qui veut pas se soumettre à sa grandeur. Tout le reste va dans son sens, mais il y a une seule chose, et ça tue son bonheur. Ça le préoccupe. Et ça, c'est l'orgueil qui cause cette préoccupation. Et est-ce que ça ne nous arrive pas des fois? Tout va bien à 95%. On est en bonne santé, on a de quoi manger, on a un toit sur la tête, on a des amis, des enfants peut-être. La vie est difficile, c'est sûr, et à la fin on meurt, mais ça c'est les païens qui disent ça. Mais on a toutes les raisons d'être satisfait de notre existence. 70% des Français sont pessimistes en ce moment, les derniers sondages. Et il y a une seule chose qui ne va pas dans notre sens et tout est gâché. Est-ce que c'est une expérience que vous faites? Moi, je sais que ça m'arrive. Des fois, il peut souvent quelque chose qui est un peu désagréable ou un rappel que quelque chose pourrait être désagréable. Tout va bien, j'arrive, j'ouvre la boîte aux lettres, je vois un courrier des impôts. Pouah ! Ma joie est flinguée. Avant même d'avoir ouvert la lettre. Des fois, c'est simplement pour demander des renseignements. Et ça, c'est dans notre cœur humain. Si on se consacre pas à Dieu, si on prend pas la bonne perspective des choses, on fait d'une petite montagne, d'une petite colline, une montagne infranchissable. Et ça nous gâche la vie. On tire la tronche, pour parler poliment. C'est contagieux, au point que 70% des Français disent que ça va vraiment mal. On devrait les envoyer un peu en Corée du Nord, faire un stage avec le Club Med là-bas. Ils rentreraient, ils seraient joyeux, et tout le monde serait joyeux. On n'a pas besoin d'attendre la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. J'en vois qui sont pleins de doutes. Mais il est blessé dans son orgueil. Et alors il est dit, verset 10, il se domina et rentra chez lui. Et là, il se domine. Il se domine parce qu'il se dit, ça serait dommage quand même. Si j'éclate là, peut-être que le roi va me voir, ça va pas, ça va faire tache. Ça va pas être très cool. Donc avec la plus grande difficulté du monde, il arrive à se contrôler. Et puis, il envoie chercher sa femme, Zérek. Vous qui avez des enfants à nommer, voilà un joli prénom, Zérek. On verra que c'était pas une femme à imiter. Mais il envoie chercher quelques intimes. Et verset 11, Aman lui fit le compte de sa richesse prestigieuse, du nombre de ses fils, de toutes les façons dont le roi l'avait distingué en l'élevant en dignité au-dessus des princes et des serviteurs royaux. Et même, leur dit-il, c'est moi et personne d'autre que la reine Esther a invité avec le roi au festin qu'elle avait préparé. Et demain encore, c'est moi qu'elle a convié avec le roi. Il a besoin d'un bain d'orgueil. Il a besoin qu'on l'admire. Ça, c'est Satan. Satan a désobéi à Dieu. Satan est devenu qui il est, l'adversaire, le diable, parce qu'il a voulu se faire aussi grand que Dieu. Il a voulu être admiré, que les gens se prosternent devant lui. Et là, ça tombe sur sa femme, Zérek. Et puis quelques intimes. On peut imaginer qu'ils avaient l'habitude de l'entendre se vanter de ses prouesses. Et que s'il restait là sans rien dire, c'est parce que, rappelez-vous, il avait encore le sceau royal, il était encore très influent. Et vous avez peut-être des personnes, vous allez les voir et tout ce qu'elles vous disent, elles ne vous demandent jamais comment vous allez, mais elles vous disent toutes les choses qu'elles ont accomplies. Et vous n'avez qu'une hâte, c'est de pouvoir repartir. C'est moi et personne d'autre. Vous imaginez? Qu'est-ce que je suis grand? Qu'est-ce que je suis beau? C'est tellement stupide. Mais on est tous capables d'orgueil et de désir d'être adulé, d'être admiré. Et puis là, il ouvre son cœur, verset 13, « Et pourtant tout cela ne vaut rien pour moi, tant que je pourrai voir ce juif Mardoché en place à la conciergerie royale. » Il vient de parler de ses fils, la tradition juive dit qu'il avait eu 210 enfants illégitimes et une vingtaine d'enfants légitimes. Il avait tous les honneurs, il était reçu par le roi, par la reine. Et là, il montre son cœur, tout cela ne vaut rien. Tout cela ne vaut rien pour moi. Tant qu'il y aura cette personne qui prospère ou qui n'est pas punie, est-ce que dans nos vies aussi, il y a des tas de bonnes choses, mais tout cela ne vaut rien parce qu'il y a un petit problème. Ça peut des fois être autre chose que l'orgueil, mais bien souvent c'est l'orgueil qui revient, cette petit malaise, une petite blessure au cœur, parce qu'on se dit, oui, mais un doute sur quelqu'un ou une peur avec quelqu'un. Et tout cela s'est enlevé. La Fontaine avait parlé du savetier et du financier. Le financier, il était riche comme Crésus, mais il avait peur qu'on lui vole son argent. Et ça l'empêchait de dormir. Tout son argent ne valait rien parce qu'il y avait cette peur. Le savetier, lui, il n'avait pas grand-chose. Mais la nuit, je dors. Là aussi, je sais qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de sommeil. Ça ne veut pas dire que vous êtes des financiers et que vous n'êtes pas des savetiers. On prie pour vous. Et puis sa femme, Et il dit, écoute, il y en a marre de t'entendre rouspéter et ronchonner comme ça. Finis-en avec ce gars-là. Elle a ce bon conseil qu'on dresse donc une potence haute de 50 coudées. Et demain matin, tu diras au roi qu'on y pend Mardoché. Tu peux donc aller joyeux au festin avec le roi. La chose plut à Aman et il dressa la potence. Sa femme lui donne un mauvais conseil, on le verra par la suite, mais elle lui dit, écoute, s'il y a quelqu'un qui t'embête, tu te débarrasses de lui. Il y a des histoires similaires dans la vie de David, avec Jézabel aussi, qui conseillait à son mari de prendre la vigne de cet homme qui voulait pas la lui donner et de le mettre à mort. Elle lui dit, débarrasse-toi de lui, tu as le pouvoir, tu as le tampon. Tu fais le papier, tu le tamponnes, et c'est bon. Et puis il dit, ah, pas mauvais comme idée. Ah, là il retrouve un peu de paix, de joie, parce qu'il a prévu d'établir une potence. Alors quand on parle de potence, pendre à la potence, on s'imagine, on pense les Far West, le Far West, les westerns, le gibet, la corde. En fait, il s'agissait plus probablement d'un grand pieu de 25 mètres de haut. Et les Perses étaient connus pour leur cruauté. Ils enfilaient les gens par leurs fondements. Ils les empalaient sur ces pieux et les laissaient bien en haut pour qu'on les voit et que ça rappelle qui était le patron. On va voir que ce conseil n'était pas très bien inspiré. Mais on va pas épiloguer. C'est c'est un récit historique. Ce sont des choses qui se sont passées historiquement, qui nous rappellent que les apparences sont trompeuses, que l'orgueil précède la chute. Vous vous souvenez sans doute de ce proverbe un peu plus loin après les psaumes. Proverbe 16-18, l'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. Je vous avais déjà raconté que j'étais tombé dans la poubelle après une réunion, je pensais que j'avais bien fait. Mais ça c'est une autre histoire. Le proverbe m'était venu à l'esprit instantanément alors que je tombais dans la poubelle la tête la première. Si vous voulez des détails, vous pouvez les demander. Je suis sûr qu'on sera content de vous les... Pour ceux qui les connaissent, ils seront heureux de vous les donner. Parlez à mon fils, il adore se rappeler des choses où son papa n'est pas au mieux de son paraître. Je plaisante. L'orgueil précède la chute. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et avant toute décision importante, tournez-vous vers le Seigneur. Prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de la prière. On a tendance, c'est vrai, à dire, à confondre l'action et la précipitation. La précipitation. Souvent, on juge les gens, on dit s'ils agissent pas, c'est qu'ils sont bons à rien. Respectez, pour vous, surtout, le temps de la réflexion, de la prière, de la recherche de la volonté de Dieu.